Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mes lèzes tremblent, tremblent être noyés.
Le destin est comme le caméléon sur un arbre. Il suffit quelquefois qu'on siffle pour qu'elle change de couleur. Bienvenue dans cette nouvelle saison de la série La Clé des Champs. La série pour se nourrir de la magie du vivant face à des climats de plus en plus extrêmes. De l'autre côté de la planète, ou à l'autre bout de la rue, l'humain observe et s'essaye à faire germer les graines. À chaque épisode, nous découvrons ensemble comment sont cultivées les terres de notre belle bleue. Aujourd'hui, nous posons valise sur l'île malgache pour y rencontrer ses habitants à pattes, à tiges et à jambes avant de bifurquer dans les champs pour choper quelques trucs et astuces de culture sous ce climat. En bonus, à la fin de cet épisode, je vous propose une recette en sortie de champ pour que nos papilles palpitent autant que nos oreilles. Nous sommes plongés dans un manteau de nuit. Les silhouettes qui se détachent des fourrés sont subrepticement éclairées par les rayonnements lunaires. Un regard se détache, puis deux et trois. Bientôt une dizaine de mirettes globuleuses suivent notre avancée sur le plateau des extraterrestres. Point culminant des falaises rocheuses de l'Andringuitra. Ses grands yeux curieux sont ceux des lémuriens, et plus particulièrement une des 105 espèces de lémuriens, le Ei-Ei, un lémurien nocturne. Reconnaissable avec ses grandes oreilles noires et ses longs doigts effilés, le lémurien est emblématique sur l'île, qui comprend 90% des lémuriens de la planète. L'écrasement de l'eau, des cascades contre les parois, est une musique continue, un fond sonore envoûtant. Dès lors que les premières lueurs pointeront au loin, nous pourrons enfin observer les dinosaures miniatures endémiques de Madagascar. Ces sortes de petits lézards verts se confondent avec la végétation environnante. Le feuillage s'articule jusqu'à pouvoir distinguer une griffe ou un motif irisé. Si un bruit singulier de gazouillement est émis, c'est un gecko. Quel drôle de bestiole! L'un d'entre eux, gecko satanique, imite le design d'une feuille morte. Le soleil éclatant sur les montagnes rouges est accompagné d'un plus petit soleil à quatre pattes. Muni d'une carapace sombre où se déploient les longs rayons dorés, la tortue étoilée est une des plus rares au monde. Le milieu aquatique est précieux. Les nombreux fleuves qui se déploient serpentent et jouent avec des populations d'insectes aux ailes translucides à écailles ou des êtres multicolores à plumes. Cresserelles, drongos, hiboux, couas, gobe-mouches du paradis, faudis, tourterelles, courolles, courcales, messites, brachypterols et vangas. Le papillon macaon de la montagne d'Ambre fait vibrer les hautes herbes sur son passage, tandis que le papillon vert bleu, à queue d'aronde, de lys à l'eau navigue entre ciel et eau avec une grande agilité. Les mots manquent pour décrire un des nombreux papillons uniques comme le papillon butterfly de Nosy Mangab, l'hirondelle ou encore le Cap Diego. Nous sommes encore trop loin pour entrevoir les mammifères marins stars de Madagascar, mesdames et messieurs les baleines à bosse. Perchés sur les hauteurs de l'île, nous découvrons des paysages de culture à étage où peu de voyageurs s'aventurent. Poumon agricole de l'île, les rizières s'étalent ici à perte de vue. Tantôt vert fluo, en saison des pluies, tantôt ocre, en saison sèche. Le climat à Madagascar se caractérise par une saison sèche, l'hiver austral, d'avril à octobre, et une saison des pluies de novembre à mars. En saison sèche, les températures à Madagascar vont de 30 degrés sur les côtes à 25 degrés sur les hauts plateaux. La température peut cependant descendre à moins 15 degrés sur les sommets. Selon les derniers recensements, en 2015, à Madagascar, 90% de la population vit dans la pauvreté. Le PIB par habitant s'élève à 420 dollars, plaçant le pays dans les 5 derniers. Un enfant sur deux de moins de 5 ans souffre de malnutrition chronique et le pays est classé 154e sur 187 au niveau de l'indice de développement humain. Les défis de développement du pays sont donc immenses. Le sol malgache est très fertile. Et le climat est à ce point propice que les agriculteurs peuvent effectuer 4 récoltes par an. Le demi-hectare d'une famille équivaut donc à une parcelle de 2 hectares sous un climat plus tempéré. 78% de la population est active, évolue dans le domaine agricole. Les populations rurales pratiquent une agriculture essentiellement vivrière, où le riz joue un rôle prépondérant au même titre que la canne à sucre, le manioc, la patate douce. Il existe également de nombreuses cultures plutôt de rente, comme le litchi, la vanille, les épices, procurant des produits d'exportation. Êtes-vous prêt pour notre truc et astuce de culture sous ce climat? Une partie de la population malgache doit pratiquer le tavi pour subvenir à ses besoins. C'est une composante importante de l'agriculture et de l'économie malgache. Il s'agit d'une culture sur brûlis, qui vise à incendier les forêts afin de replanter par la suite des rizières. Le feu est utilisé comme moyen de création du champ. Par exemple, on coupe un ou deux terrains de forêt, on les brûle avant d'y planter une ressource alimentaire. C'est l'un des facteurs les plus dévastateurs de la forêt dans l'île de Madagascar. La population perpétue également cette pratique pour gagner plus de terrain. Cela engendre un dysfonctionnement important dans l'écosystème malgache. En effet, après un ou deux ans de production, la parcelle brûlée est laissée au repos pendant 4 à 6 ans. Puis on répète le procédé. Au bout de 2 ou 3 cycles, les nutriments du sol sont complètement épuisés et la terre est envahie par des broussailles ou de l'herbe. La terre est alors défraîchie, il n'est plus possible de la cultiver, la terre n'est donc plus fertile. Même si cette technique constitue un maillon essentiel de la vie sociale, économique et culturelle, c'est une pratique très néfaste pour l'environnement. Les incendies générés par le tavi sont à l'origine de l'érosion des sols, des glissements de terrain, de la destruction de la biodiversité malgache et bien sûr d'émissions de CO2. Il faut donc trouver une alternative afin de sensibiliser la population aux effets néfastes de cette pratique, car on ne peut se limiter à l'interdire. Comme le bois reste la principale source d'énergie domestique utilisée en milieu rural, le moyen par excellence pour lutter contre cette problématique est l'agroécologie. En effet, celle-ci est une conception de système agricole durable qui permettrait d'arrêter de lutter contre l'érosion des sols. Avec la mise en place de l'agroforesterie et la restauration de paysages dégradés, avec la réintroduction d'organismes vivants dans la terre déjà meurtrie, dans le but de redonner vie à l'écosystème, la réduction du taux de déforestation en essayant de promouvoir des alternatives aux cultures sur brûlis. Il faut donc former les générations futures à des nouvelles pratiques agricoles beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Pour cela, il est question de fournir un savoir et un savoir-faire. Ainsi, pour lutter contre la culture sur brûlis et assurer la sécurité alimentaire du pays, d'une large partie du pays, le gouvernement malgache compte développer le Pfumbudza à grande échelle. Son nom signifie « nouvelle saison ». Au Zimbabwe, la technique agricole Pfumbudza s'inspire de l'agroécologie pour produire de hauts rendements sur de petites surfaces. Mieux, elle vise à limiter au maximum les perturbations ou modifications des sols afin de préserver leur fertilité et réduire la charge de travail des agriculteurs, ainsi que l'apport en eau. De quoi faire de l'œil au gouvernement malgache qui entend développer cette méthode à l'ensemble du pays. Il y a peu, le couple présidentiel a donc visité un site pilote au centre de la grande île à Ambatolampi, Tsimaa Fotsi. Divisé en 4 parcelles, maïs, riz, soja et mokuna, une liane à grappes, ils sont cultivés en rotation. Un an après le lancement du projet, les résultats sont déjà prometteurs puisque 375 kg de riz ont pu être produits sur 624 m2. Avec moins de 2 kg de semences, soit une récolte de 5 tonnes à l'hectare. Andri Rajoelina, président de la République de Madagascar, espère à terme pouvoir étendre le Pfumza à grande échelle pour, d'ici 2 ans, former 1 million de ménages vulnérables à cette technique afin de leur offrir une certaine autonomie alimentaire et lutter par là même contre la culture surbrûlée, encore largement répandue dans le pays. En 3 ans, 3000 ménages y ont déjà été formés. Une trentaine de représentants d'agriculteurs avaient d'ailleurs fait le voyage jusqu'au Zimbabwe en janvier dernier pour suivre une formation dédiée au Pfumza avant qu'ils n'aient pu former à leur tour les paysans malgaches. Les agriculteurs des hautes terres ont toujours alterné les cultures pour maintenir la quantité de nutriments présents dans le sol, mais ils savent désormais qu'ils doivent, par exemple, au moins une fois par an, faire pousser des patates douces ou des haricots, variétés dont les racines abondantes maintiennent le sol en place et qui, en se décomposant, enrichissent le sol en carbone et le rendent plus dense, ralentissant ainsi l'érosion. Ces changements profonds demandent une remise en question des pratiques traditionnelles. L'île a depuis tout temps changé de visage au gré des migrations et pourrait bien emprunter cette nouvelle route de l'agroécologie en s'inspirant de voisins déjà avancés sur le sujet. Les traditions ne disparaîtront pas pour autant. Prenons par exemple la musique. La musique malgache a servi un large éventail de fonctions sociales, spirituelles et mondaines à travers les siècles. Les traditions locales à Madagascar sont le plus souvent polyharmoniques, avec des styles vocaux au sud qui ressemblent plus à des chants sud-africains, tandis que les harmonies des hautes terres, fortement influencées au cours des derniers siècles par la musique d'église européenne, rappellent davantage les traditions vocales hawaïennes ou d'autres traditions polynésiennes. Tendons un instant l'oreille à ces chants venu d'une île à l'autre bout du monde.
Yeah!
La cuisine malgache s'apparente aux cuisines créoles, habituellement généreuses, influencées par la cuisine d'Asie du Sud-Est, d'Afrique, d'Océanie, d'Inde, de Chine ou encore d'Europe, avec les nombreux migrants qui ont pu s'établir sur l'île à la suite des premiers marins, en provenance de Bornéo entre 100 et 500 après Jésus-Christ. Un plat populaire peut être trouvé à chaque coin de rue. Il s'agit du caca-pigeon. Le nom caca-pigeon viendrait d'une légende du temps des colons, histoire d'une nounou malgache, Néni, surpris en train de grignoter par les enfants, qui lui demandèrent ce qu'elle mangeait. Sa réponse fut du caca-pigeon, dans le but de dégoûter ces petits curieux. Sauf que les enfants ont découvert la cachette de la nénénie. Évidemment, ils ont aimé le fameux caca-pigeon, très apprécié comme un tzatzaki, ou même au goûter dans le pays du Mora Mora, autre nom donné à l'île de Madagascar.
Voici les caca-pigeons pour 6 personnes. Réunissez les ingrédients suivants. 250 g de farine de riz, un demi-paquet de levure chimique, 50 g d'huile, un tiers cuillère à café de sel fin, un quart cuillère à café de poivre moulu, 125 ml d'eau à adapter selon besoin, huile de friture également. Passons à la préparation. Si vous y consentez, nous commencerons par verser cette farine légère dans ce cul de poule que vous réservez pour les grandes occasions. Ajoutez un soupçon de sel et un sachet de levure chimique. Mélangez tendrement. Dès lors, il vous faudra moudre le poivre en son sein avant d'y déposer l'huile. Avec une grande rigueur, vous ajouterez goutte après goutte, filet après filet, l'eau en pétrissant amoureusement la boule de pâte. Pétrissez, malaxez cette boule dans tous les sens pendant une bonne quinzaine de minutes. Désormais, préparez votre plan de travail à accueillir ce futur caca-pigeon. Étalez avec ferveur la boule à l'aide d'un rouleau ou d'une bouteille jusqu'à ce que la pâte fasse à 1 mm d'épaisseur environ. Là, voilà, vous pouvez la sentir venir, cette gourmandise alléchante. Avec une roue dentelée ou un couteau à pizza, découpez des lanières jusqu'à dessiner des rectangles de la dimension d'un doigt. Il ne vous reste plus qu'à les faire frire et roussir dans une poêle ou une friteuse avec harmonie ou insistance. Arrivé dans cette assiette commune, il vous faudra batailler pour engloutir jusqu'à la dernière miette de ces délectables caca-pigeons.
Tu as pêché où, baobab d'acajou? Ce banquet de saveurs en terre rouge prend fin. La semaine prochaine, le vivant réclame notre attention sur de nouvelles feuilles de choux fraîchement cueillies.
Pain des landes palissandres. Mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.